Brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire aimer la lecture. Hervé et Catherine vous choisissent tous les mois un livre dont ils vous lisent quelques extraits choisis pour vous le faire découvrir et vous le faire aimer, à vous qui êtes tranquillement installés dans vos canapés à la maison. Profitez bien. Aujourd'hui, ce sera Catherine qui nous lira quelques contes de Noël. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et donc, si on vous racontait des histoires, des beaux contes ou des histoires grinçantes, le choix est large. Pour placer le décor, une petite introduction signée Charles Dickens, autour de l'arbre de Noël que l'on peut trouver dans...
C'est sorti d'un livre qui s'appelle « Récits pour Noël et autres », publié chez Gallimard. Mais je donnerai à la fin des lectures une référence qui regroupe à peu près tous les petits...
C'est encore un livre actuel.
Actuel dans quel sens?
Je veux dire, il a été publié récemment.
Ah, celui-ci, non. Parce que c'est dans la Pléiade, donc ça se fait pas régulièrement. Mais en fin de compte, cet extrait, j'ai entre les mains un petit livre qui se trouve dans les collections Folio, enfin chez Folio, qui coûte 2 euros et qui s'appelle « Joyeux Noël, histoire à lire au pied du sapin ».
Ben
donc
voilà.
Presque toutes sont sorties de là.
Ah oui.
Je vous ai tout dit.
Hein. C'est moins cher que la Pléiade peut-être.
Et voilà, puis vous pouvez par exemple, vous avez, vous avez du monde au réveillon, chacun a son petit paquet avec son petit livre par exemple.
C'est parfait.
C'est sympa.
C'est pour offrir.
Ah là là. Et puis, bien sûr, j'en lis très peu. Hein. Le livre raconte plein d'histoires.
Il faut juste amorcer, juste donner l'envie.
C'est ça.
Allez, on y va.
J'ai contemplé ce soir une joyeuse assemblée d'enfants réunis autour de ce charmant jouet venu d'Allemagne, qu'est un arbre de Noël. L'arbre était planté au milieu d'une grande table ronde et se dressait bien haut au-dessus de leur tête. Il était brillamment illuminé par une multitude de petites bougies et sur toutes ses faces, il était couvert d'objets brillants qui étincelaient et jetaient mille feux. Bref, comme le déclarait avec ravissement devant moi à voix basse une jolie petite fille à son ami de cœur, autre jolie petite fille, il y avait de tout et même davantage. Cet assemblage disparate d'objets surprenants réunis en grappes sur l'arbre comme des fruits magiques et reflétant l'éclat des regards lumineux qui se dirigeaient vers lui de toutes parts. Cela me rappela que tous les arbres qui poussent et tous les objets qui apparaissent sur terre sont, pour cet âge mémorable, parés d'ornements aussi fantastiques. Voilà, juste quelques lignes pour mettre dans l'ambiance de Noël.
Ah oui, parce qu'on attendait plus.
Mais non, c'était juste pour rappeler que le sapin de Noël, ce n'est pas si vieux que ça et que c'était une tradition allemande du 19e siècle. Voilà.
Bien. Donc,
nous quittons le 19e.
Pour retrouver notre 21e siècle.
Mmh.
Et Sylvain Tesson, ce cher Sylvain Tesson, que devient-il?
Comme tout le monde.
Voilà, Sylvain Tesson qui nous raconte deux histoires qui se passent le soir de Noël, trouvées dans le recueil de nouvelles « S'abandonner à vivre,
voilà.
Dont on avait déjà lu une nouvelle, si je me souviens bien.
Exactement, voilà.
Publié chez Gallimard en 2014.
Mais que l'on peut retrouver dans le petit livre « Joyeux Noël ».
Dont on parlait à l'instant.
Voilà.
Donc la première histoire nous emmène dans les montagnes enneigées à Zermatt, où une famille s'apprête à réveillonner.
Il flottait dans le chalet l'odeur joyeuse du boudin. Le feu de bois se reflétait dans la glaçure des beignets. La nappe disparaissait sous les assiettes à motifs de rennes lapons. Les pains d'épices luisaient. Les couronnes de l'avant hérissées de 4 bougies rouges, 4 tours de cire, attendaient l'allumette. Des sucres d'orge pendaient aux branches du sapin que Gretel et Hans, 12 et 9 ans, obèses tous les deux, ensevelissaient sous les guirlandes. Les arbres sont des saints. Ils se laissent persécuter en silence. Le chat, lui, s'était caché. Le cervin déployait ses arêtes, il encadrait dans la fenêtre ses ailes de chauve-souris pétrifiées. Sa masse d'encre envahissait le ciel. Quelques heures auparavant, les faces schisteuses, balayées de traits pastels par les rayons du couchant, s'étaient reflétées dans l'argenterie, souveraine, silencieuse, nourrie d'alpinistes qui avaient prétendu égratigner le rocher noir de leurs parois. À présent, seul le sommet s'éclairait d'un capuchon de lumière. Greta, la maman de Gretel et Hans, achevait de fourrer les caillettes. Elle résistait à l'envie de goûter à sa farce aux pruneaux. Elle avait pris 8 kilos depuis la Toussaint et luttait depuis lors contre le désir morbide d'enfourner des choses dans sa bouche. Il lui fallait encore préparer les coquillages, remplir les cassolettes de cèpe, mettre la bière de Noël au frais, transvaser le vin de miel dans les carafes de cristal pour l'éventer. Afin de se donner du cœur, elle écoutait un groupe de yodeleurs tyroliens. Ces chanteurs en short de cuir avaient réussi l'exploit de traduire en musique la dégoulinade de la crème. Dans quelques heures, parents et cousins arriveraient, tout serait prêt, comme chaque fois, comme à chaque Noël. Un traîneau glissa devant les fenêtres, des rires fusèrent, des gens crièrent des noms anglais, ils retenaient dans leurs moufles des paquets de couleurs griffés de noms de couturiers. Tout à l'heure, sous les sapins, des mains blanches et fines ouvriraient des écrins Cartier et des boîtes oranges Hermès. Zermatt vibrait des préparatifs de la fête. Noël était la plus parfaite entreprise de détournement spirituel de l'histoire de l'humanité. On avait transformé la célébration de la naissance d'un anarchiste égalitariste en un ensevelissement des êtres sous des tombereaux de cadeaux. Pour quelques heures, en ce 24 décembre, l'immense névrose européenne de l'après-guerre s'octroyait un répit, le temps d'ouvrir des paquets dans un bruit de mandibules d'insectes. Dans le chalet, il faisait 27 degrés. Le foie gras exudait. Sur le bloc rose, les gouttes de graisse perlaient. C'était la même rosée qu'au-dessus de la lèvre supérieure de Greta. L'horloge de l'église sonna. Déjà 5 heures. Étrange qu'il ne soit pas rentré, se dit Greta à la 25e huître. Hans Christian Kipp, pharmacien bavarois, passait ses vacances de Noël à l'hôtel Mirabedau depuis 15 ans. Il introduisit une pièce de 5 francs suisse dans le télescope et le braqua sur le Klein Matterhorn. La cime du petit frère du Cervin était dans l'ombre, elle aussi. On distinguait cependant le métal de la cabine du téléphérique. Elle oscillait au creux de la courbe du câble entre 2 pylônes meringués de glace. Kip étouffa un juron. La silhouette d'un homme venait d'apparaître sur le toit de la benne au-dessus du vide. Il était 5h10, il faisait presque noir. Un quart d'heure plus tard, dans le bureau d'Heinrich Heinz, directeur de la société des remontées mécaniques de Zermatt Bergbahnen, c'était le conseil de guerre. Le chef des pisteurs de la station, 3 guides de montagne et les secouristes de l'OCVS écoutaient fulminer leur patron. Me faire ça, le jour de Noël. Karl et Ernst, employés de la société, redescendaient habituellement de la gare du téléphérique à 4h30. Comme tous les soirs, à l'heure dite, ils avaient mis en route la benne de service après avoir vérifié et fermé les installations. Depuis, on n'avait pas de nouvelles. La cabine était coincée à 2700 mètres d'altitude. Le système de frein s'était déclenché, mordant le câble porteur. La radio ne répondait plus. Dans le village, les nouvelles glissent sur la neige, rampent par les venelles, s'immiscent dans les chalets. Greta, alertée par la rumeur, déboula dans le bureau du Zermatt Bergbahnen en larmes. Une odeur de profiterole emplit la pièce encombrée de skis, de piolets et de piquets de slalom. Greta s'écroula sur la chaise que lui tendit Heinz. Ernst et Karl étaient ce qu'elle avait de plus cher au monde après ses enfants. Le premier était son beau-frère et le second son mari. « Mais faites quelque chose, Heinz, ils vont mourir !» Le plus vieux des pisteurs, un skieur de Montana qui avait survécu à 17 fractures, la rassura. Les deux techniciens étaient des natifs du Valais, de pure gars, de vrais durs, et ils disposaient là-haut d'un équipement qui leur permettrait de passer la nuit. Il fallait rien craindre, ils en avaient vu d'autres. Greta redoubla de sanglots. Elle imaginait sa tablée de réveillon avec 2 chaises vides. 7 heures. Zermatt bruissait d'une nervosité anormale. Au bar des hôtels, dans la moiteur des spas, jusque dans les cuisines des restaurants, on commentait le naufrage. Deux types, la télécabine coincée. Le vent avait forci, des gifles de grésil crépitaient contre les vitres. Oh, ça doit être l'enfer là-haut. Dans les rues, les rafales soulevaient des tourbillons de neige. On allait donc sabler le champagne pendant que deux pauvres types, dont la vie consistait tout entière à veiller au bon déroulement des loisirs des vacanciers, risquaient de geler suspendus à leur cercueil de zinc. Déjà, les premiers touristes passaient à table, la mine honteuse. On s'évitait du regard. À la pitié, à la compassion pour les infortunés se mêlait une indéfinissable animosité. En somme, ces deux connards, incapables de faire fonctionner leur nacelle, allaient gâcher la fête. La soirée allait s'apparenter à l'une de ces inaugurations de photo-reportages dans les galeries de la rive gauche à Paris où les dames en vison buvaient du champagne devant des photos de négrillons assis sur le ventre gonflé de leur mère morte. La gêne était palpable. On entendait racler l'argenterie sur la porcelaine. Quelques enfants pleuraient. Il y avait quelque chose de pourri au royaume du télémarque. Sur les sapins, les guirlandes clignotantes semblaient soudain des signaux d'alerte spécialement destinés à rappeler aux convives qu'ils se gobergeaient pendant que leurs semblables dépérissaient dans la tourmente. 8 heures. À la société des remontées, la cellule de crise battait son plein. Heinz réfléchissait. L'activité cortexale inhabituelle avait cramoisi son visage d'oberlandais alcoolique. Envoyer une équipe de secours était la seule solution. 3 des meilleurs guides de la station s'étaient portés volontaires. Le plan était parfait car il n'y en avait pas d'autre. Gagner la base du pylône en ratraque, l'escalader, progresser le long du câble jusqu'à la cabine et faire descendre les deux malheureux en rappel. Simple, mais dangereux. Heinz ne s'y résignait pas et il se rongeait les ongles en écoutant frapper les rafales au carreau du poste de garde. Ernst et Karl avaient fini de dresser la nappe. Sur la couverture de laine à carreaux rouges et blancs s'étalaient 2 bouteilles de pinot noir de Salkenen, un magnum d'humagne rouge, 2 bouteilles de fendant bien frais et une flasque d'abricotine. Les 2 paniers en osier contenaient une saucisse sèche, 1 livre de viande des grisons et une demi-meule de raclette valaisanne que Karl escomptait faire fondre à l'aide du petit réchaud Primus qu'il achevait d'assembler. Ils allaient passer le Noël de leurs rêves. Des années qu'ils en parlaient de ce réveillon à l'altitude des dieux dans le hurlement de la tempête. Greta, née en Allemagne, mesurait la réussite d'une soirée à la quantité de calories ingurgitées par les convives. Elle traitait les invités qui franchissaient son seuil comme s'ils ne s'étaient pas nourris depuis 6 jours et elle confondait les devoirs de l'hôte avec la fonction du Saint-Bernard chargé de réanimer les victimes d'avalanches. Elle mettait sur ses plätzchen une épaisseur de crème proportionnelle à la tendresse dont elle débordait. Elle pensait que le massepain adoucissait la dureté du monde. Elle transférait dans les strudels ses réserves d'amour. Ernst et Karl n'en pouvaient plus. Ils avaient déjà survécu ensemble à 12 réveillons germaniques. Elle vivait dans la crème et eux rêvaient d'ozone. Ils avaient uniment contracté une indigestion. Greta était leur haut-le-cœur. Au fil des ans, les 2 frères durcis par l'altitude avaient commencé à redouter l'approche du 24 décembre. Fêter la naissance du stoïcien crucifié par une bombance heurtait leur protestantisme. Et ces airs ravis des convives qui vous plantaient des couteaux dans le dos sitôt la porte fermée. Ce soir, ils aspiraient à l'air sec, au vin clair, à la nuit pure. Ils allaient vivre un réveillon digne de Zarathoustra, sur la corde raide pendue au câble d'acier. La cabine du téléphérique serait le lumignon de leurs rêves accroché au plafond de la nuit. En descendant par la benne de service, ils avaient bloqué le frein et coupant la radio, ils avaient conquis leur tranquillité. Demain, ils regagneraient la station et s'expliqueraient avec Greta. Ernst enfonça le tire-bouchon dans le liège du pinot noir. Karl alluma le Primus. Au même instant, la trappe du plafond de la benne s'ouvrit violemment. Une bouffée glaciale s'engouffra dans la cabine et la tête d'un secouriste jaillit. « Les gars, on y est arrivé, vous êtes sauvés, on vous ramène en bas !»
La deuxième histoire, toujours de Sylvain Tesson, nous fera passer le réveillon sur la côte bretonne où les fées, parfois, jouent quelques tours.
Ce Noël-là, le froid s'était abattu. La Bretagne était un oursin mauve et blanc hérissé de glace. La houle torturait l'océan. Le vent sifflait, coupé par l'aiguille des pins. Les rafales froissaient la lande, battaient au carreau. Le ciel en haillons. Des cavaleries de nuages chargées devant la lune. L'eau de l'abreuvoir avait gelé. C'était rare chez nous.
La ferme était battue au bord d'un talus surplombant la plage de l'Ostmar. Sur le côté du chemin, un menhir montait la garde depuis 6 000 ans. Le jour, la mer emplissait les fenêtres percées vers l'ouest. La nuit, il faisait bon écouter le ressac à l'abri des murs de granit. La satisfaction de contempler la tempête par la fenêtre, assis auprès d'un poêle, est le sentiment qui caractérise le mieux l'homme sédentaire qui a renoncé à ses rêves.
Nous étions 10 convives à la table du réveillon, Pauline, moi et les nôtres. Les uns, comme Alan et Morgane, étaient venus de Brest, les autres vivaient sur la presqu'île. Nous avions éteint les lumières et flottions un peu ivres dans la lueur des bougies. À travers les bouteilles vides, les flammes projetaient leurs grimaces sur les murs nus. Parfois, un reflet dessinait une silhouette fugace, tremblante. « L'ombre des fées, dis-je. »« Moi, j'y crois, dit Pauline. »« Oh, ne commencez pas, dit Pierre. » Pierre, c'était notre voisin. Sa maison occupait une position analogue à la nôtre au sommet de la terrasse littorale de l'autre côté de la plage de l'Ostmar. Un bouquet de pins nous en masquait la vue, mais du large, on distinguait nos bâtisses respectives qui se dressaient en miroir, séparées d'un kilomètre, flanquant les deux extrémités du croissant de sable, deux tours jumelles veillant l'océan. Pierre s'était installé là à son retour d'Afrique.
30 années à superviser les mines d'uranium dans le Sahara nigérien lui avaient donné des envies d'embrun. Il coulait des heures calmes, s'occupait de sa maison, sortait ses chiens dans la lande et venait de temps en temps nous rendre visite à la ferme. Notre ami était l'ennemi de toute fantaisie. Les contes et légendes qui fleurissaient en Bretagne depuis 40 ans l'emmerdaient à mort. Il conspuait le folklore, haïssait les bignouseries. Il tenait pour des sommets de mauvais goût l'imagerie pré-raphaélite. L'engouement des peintres post-romantiques pour des créatures éthérées l'écœurait. Les représentations contemporaines des créatures mythologiques le consternaient. Pour lui, mettre des ailes aux femmes signifiait que la femme ne suffit pas. Il tenait la croyance et un peuple d'elfes, d'effrites et d'ondines pour un détraquage de l'esprit, le goût du fantastique pour un enfantilisme. Il invoquait l'influence du climat sur les psychismes. Trop d'humidité, trop d'humidité aurait déréglé les sensibilités et donné aux Bretons un penchant pour l'invisible. Lorsque nous lui répondions qu'il ne s'agissait que de déceler dans l'expression des choses vivantes, la manifestation du divin, il s'emportait.
Mais je me fous de vos fées. Mais ce soir-là, personne ne ménage à Pierre. C'était Noël. On voulait défendre le merveilleux, la matière de Bretagne, la légende arthurienne, la source fraîche des mythes médiévaux à laquelle s'étaient abreuvés les conteurs. Chacun voulut y aller de son histoire. La nuit de Noël de l'année dernière, dit Alan, un chalutier errait dans la tempête près des récifs de la Roche-Noire au large de Kerskoff. Il y a eu un article dans le télégramme. C'était une nuit sans lune et les appareils de bord ne marchaient plus. Pourtant, le bateau est rentré au port en moins d'une demi-heure. Le capitaine m'a raconté avoir été guidé par des signaux qui brillaient sur les affleurements. Les lumières s'allumaient à l'approche du navire et s'éteignaient sitôt qu'il était passé. L'équipage a eu le sentiment d'être accompagné. Les hommes ont précisé qu'il ne s'agissait pas d'éclats de signalisation, mais d'une luminescence étrange, vivante, en suspens dans l'air. « Le halo des fées les a guidés, dit Pauline. »« Foutaise, dit Pierre. » Est-ce qu'elle ne pouvait pas envoyer un remorqueur ? « Tais-toi, dit Morgane. Il y a eu à Plouarnel, au début du siècle, un phénomène similaire d'irradiation. Le violoniste du village était un drôle de type, mi-fou, mi-ermite. Il refusait les invitations et le soir du réveillon, disparaissait dans la lande. « Je vais jouer pour les fées », disait-il. Il passait la nuit sur les chemins à semer des gigues. Le lendemain, il revenait épuisé, trempé et s'asseyait au café. Il expliquait que personne ne pense jamais à la solitude des fées le soir de Noël. Il disait que la nouvelle religion avait éclipsé leur règne. Pendant que les hommes se réjouissent sous les feux du réveillon, elles ruminent leurs peines dans leurs bruyères. Lui se chargeait de leur offrir gaieté et compagnie jusqu'à l'aube. Quand il est mort, il a été oublié dans un coin du cimetière. Mais chaque 24 décembre, sa tombe était baignée d'une étrange lueur enveloppante, douce, insaisissable, dont l'œil était incapable de discerner la source. Pfff, des feux follets, dit Pierre, des vers luisants, des lampes frontales, le reflet de la lune. Et l'histoire du couvent de Kerdonec, dit Alan. Oh, pitié, dit Pierre, changeons de sujet. Mais raconte, dit Pauline. Ben, on en a beaucoup parlé à l'époque, dit Alan. C'était un couvent de bénédictines. Dans l'église, accrochée au mur de la Travénor, il y avait un tableau, une toile de maître du XVIIe siècle qui représentait la nef, vide, avec les chaises de bois alignées pour l'office. La peinture n'avait pas grand intérêt. Elle était austère, sévère, suintait l'ennui. Dans le restaurant qui jouxtait le couvent, le propriétaire avait accroché une toile intitulée « Les fées ». C'était un de ces tableaux dont les Britanniques étaient friands à la fin du XIXe siècle. On y voyait des créatures ailées, diaphanes, couronnées de fleurs, vêtues de robes blanches et baignant dans un clair automne. Les unes se miraient dans l'eau d'un étang, les autres dansaient des ronds dans un bois de bouleaux. « Berk !» dit Pierre. Eh ben, un soir de Noël, la messe battait son plein. Soudain, au milieu de l'homélie, le curé se trouva mal. Il s'appuya sur le pupitre et montra du doigt le mur de la travée en balbutiant les fées du tableau de l'auberge s'étaient incorporées au tableau de l'église. Elles se tenaient dans la toile, assises sur les chaises peintes, les ailes repliées dans le dos, elles assistaient à l'office. Le tableau était vivant. La panique fut indescriptible. L'église fut évacuée, on sonna les pompiers, les tableaux furent détruits. « Merci, un service rendu au bon goût, » dit Pierre.
Il en avait assez entendu pour la soirée. Il était tard, on se quitta en se souhaitant un joyeux Noël. J'insistais pour le raccompagner en voiture, mais Pierre voulait marcher un peu et rentrer chez lui par la plage. Il ajouta qu'il avait besoin du froid, du vent, du sel pour dissoudre le fatras d'ineptie qu'on lui avait fait avaler ce soir.
Le lendemain matin à 8h, Pierre nous téléphona. Il avait une voix paniquée et nous pria d'accourir. La route qui menait chez lui contournait les dunes de l'Ostmar. Il était aussi rapide d'aller à pied par la plage, mais le vent n'était pas tombé. Un quart d'heure après son coup de fil, nous étions près de lui. Il se tenait debout devant la baie vitrée et regardait l'océan, pâle, l'œil défait. Je regrette pour hier. Venez voir. Sans aucune explication, il enfila sa veste et sortit. Nous le suivîmes sur le sentier abrupt qui, du fond de son terrain, par une lande de fougères, donnait accès à la plage. Le vent s'acharnait sur le pays, le ciel roulait des présages. L'océan était une babine de chiens bavantes. Nous luttions pour avancer. Pierre criait. Cette nuit, en rentrant, j'ai été saisi par le froid sur la plage. L'alcool, peut-être. La chaleur chez vous ou le vent de la nuit, je sais pas. J'ai eu un malaise et me suis évanouie. Je me suis réveillée dans mon lit ce matin, sans aucun souvenir. Et je suis descendue sur la plage pour essayer de retrouver l'endroit où j'étais tombée. Et alors voilà. Nous étions sur la grève, à mi-chemin entre nos deux bâtisses et à quelques dizaines de mètres de l'estran. On voyait distinctement l'endroit où Pierre était tombé. Le corps avait creusé le sable. De là partaient deux traces parallèles, rectilignes, qui filaient vers la maison de notre ami. C'étaient les deux pieds de Pierre qui avaient traîné dans le sable et creusé leurs doubles griffes pendant qu'on le soutenait. Il n'y avait nulle autre empreinte, aucune trace de ceux qui l'avaient porté. Et Pierre, éperdu, regardait ce sillon pendant que la houle s'écroulait sans répit.
« Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant partout les poils et la moustache pleine de chagrin?
Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet?
Quand ils sont beaux,
ils sont idiots.
Quand ils sont vieux,
ils sont affreux.
Quand ils sont grands,
ils sont feignants.
Quand ils sont petits,
ils sont méchants.
Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gâter les tifs en regardant ses pieds l'air poncif?
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Faites plutôt du cinéma, restez plus seul chez votre papa.
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats.
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat.
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Prenez le voile, ne prenez pas, dansez à poil pour les gagas. Soyez radieuse, avenue du bois, mais ne vous mariez pas. Gêné, rentré trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole.
Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence?
Quand ils sont bêtes,
ils vous embêtent.
Quand ils sont forts,
ils font du sport.
Quand ils sont riches,
ils gardent l'artiche.
Quand ils sont durs,
ils torturent.
Avez-vous vu à votre bras un maigrichon aux yeux de rat friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bavache?
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia.
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Changez d'amant quatre fois par mois, prenez la braise et gardez-la.
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Cachez la fraîche sous votre matelas, à 50 ans ça servira.
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
À vous payer de beaux petits gars, rien dans la tête ou dans les bras. À la belle vie que ce sera, mais ne vous mariez pas.
Retournons au XIXe siècle pour écouter un conte de Noël relaté par Maupassant. Nous sommes donc en Normandie.
Le docteur Bonenfant cherchait dans sa mémoire, répétant à mi-voix, un souvenir de Noël, un souvenir de Noël. Et tout à coup, il s'écria, « Ah mais si, si, j'en ai un !» Et un bien étrange encore, c'est une histoire fantastique. J'ai vu un miracle. Oui, mesdames, un miracle la nuit de Noël. Ça vous étonne de m'entendre parler ainsi, hein, moi qui ne crois guère à rien. Et pourtant, j'ai vu un miracle. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu ce qui s'appelle vu. En ai-je été fort surpris ? Non pas, car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi et je sais qu'elle transporte les montagnes. Oh, je pourrais citer bien des exemples, mais je vous indignerai et je m'exposerai aussi à amoindrir l'effet de mon histoire. Je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été fort convaincue et convertie par ce que j'ai vu, j'ai été du moins fort émue et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j'avais une crédulité d'Auvergnat. J'étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville, en pleine Normandie. L'hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelée. On voyait de loin les gros nuages venir du nord et la blanche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Les fermes, isolées dans leurs cours carrés, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère. Aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile. Seuls, les corbeaux par bandes décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leurs grands becs. On n'entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière tombant toujours. Cela dura 8 jours pleins, puis l'avalanche s'arrêta. La terre avait sur le dos un manteau épais de 5 pieds. Et pendant 3 semaines ensuite, un ciel clair comme un cristal bleu le jour et la nuit, toute semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendit sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni homme ni bête ne sortait plus. Seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. Les habitations semées çà et là par les champs semblaient éloignées de 100 lieues les unes des autres. On vivait comme on pouvait. Seul, j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches, m'exposant sans cesse à rester ensevelie dans quelques creux. Je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, n'était point naturel. On prétendit qu'on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus, des cris qui passaient. Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent au crépuscule et qui fuyaient en masse vers le sud, mais allaient donc faire entendre raison à des gens affolés. Une épouvante envahissait les esprits et on s'attendait à un événement extraordinaire. La forge du père Vatinel était située au bout du hameau d'Épivant, sur la grande route, maintenant invisible et déserte. Or, comme les gens manquaient de pain, le forgeron résolut d'aller jusqu'au village. Il resta quelques heures à causer dans les 6 maisons qui forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles, et un peu de cette peur épandue sur la campagne. Et il se remit en route avant la nuit. Tout à coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf sur la neige. Oui, un œuf, déposé là, tout blanc, comme le reste du monde. Il se pencha. C'était un œuf, en effet, mais d'où venait-il? Quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit? Le forgeron s'étonna, ne comprit pas, mais il ramassa l'œuf et le porta à sa femme. « Tiens, la maîtresse, v'là un œuf que j'ai trouvé sur la route. » La femme hocha la tête. « Un œuf sur la route? Bah, par ces temps-ci, t'es sous, bien sûr. » « Mais non, la maîtresse, même qu'il était au pied d'une haie, et encore chaud, hein, pas gelé. L'œuf là, je me l'ai mis sur l'estomac pour qu'il refroidisse pas. Tu le mangeras pour ton dîner. » L'œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée. La femme écoutait toute pâle. « Pour sûr que j'ai entendu des sifflets l'autre nuit, même qui semblaient venir de la cheminée. » On se mit à table, on mangea la soupe d'abord, puis pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf et l'examina d'un œil méfiant. « Et s'il y avait quelque chose dans cet œuf? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ?»« Je sais-ti, moi. Allons, mange-le, fais pas la bête !» Elle ouvrit l'œuf, il était comme tous les œufs et bien frais. Elle se mit à le manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait « Eh ben, quel goût qu'il a, cet œuf ?» Elle ne répondit pas et elle acheva de l'avaler. Puis soudain, elle planta sur son homme des yeux fixes, hagards, affolés, leva les bras, les tordit et, convulsé de la tête aux pieds, roula par terre en poussant des cris horribles. Toute la nuit, elle se débattit en des spasmes épouvantables, secouée de tremblements effrayants, déformée par de hideuses convulsions. Le forgeron, impuissant à la tenir, fut obligé de la lier. Et elle hurlait sans repos d'une voix infatigable. « Je l'ai dans le corps! Je l'ai dans le corps !» Je fus appelé le lendemain. J'ordonnai tous les calmants connus sans obtenir le moindre résultat. Elle était folle. Alors, avec une incroyable rapidité, malgré l'obstacle des hautes neiges, la nouvelle, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme. La femme au forgeron qui est possédée. Et on venait de partout, hein. Sans oser pénétrer dans la maison, on écoutait de loin ces cris affreux poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait pas cru d'une créature humaine. Le curé du village fut prévenu. C'était un vieux prêtre naïf. Il accourut en surplis, comme pour administrer un mourant, et il prononça en étendant les mains les formules d'exorcisme pendant que 4 hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordue. Mais l'esprit ne fut point chassé. Et la Noël arriva sans que le temps eût changé. La veille, au matin, le prêtre vint me trouver. « J'ai envie, dit-il, de faire assister à l'office de cette nuit cette malheureuse. Peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur, à l'heure même où il naquit d'une femme. » Je répondis au curé. « Je vous approuve absolument, monsieur l'abbé. Si elle a l'esprit frappé par la cérémonie, et rien n'est plus propice à l'émouvoir, elle peut être sauvée sans autre remède. » Le vieux prêtre murmura « Vous n'êtes pas croyant, docteur, mais aidez-moi, n'est-ce pas? Vous vous chargez de l'amener. » Et je lui promis mon aide. Le soir vint, puis la nuit, et la cloche de l'église se mit à sonner, jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne sur l'étendue blanche et glacée des neiges. Des êtres noirs s'en venaient lentement par groupes, dociles aux cris d'airain du clocher. La pleine lune éclairait d'une lueur vive et blafarde tout l'horizon, rendait plus visible la pâle désolation des champs. J'avais pris 4 hommes robustes et je me rendis à la forge. La possédée hurlait toujours, attachée à sa couche. On la vêtit proprement malgré sa résistance éperdue et on l'emporta. L'église était maintenant pleine de monde, illuminée et froide. Les chantres poussaient leurs notes monotones, le serpent ronflait, la petite sonnette de l'enfant, de cœur teinté, réglant les mouvements des fidèles. J'enfermai la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère et j'attendis le moment que je croyais favorable. Je choisis l'instant qui suit la communion. Tous les paysans, hommes et femmes, avaient reçu leur Dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin. Sur mon ordre, la porte fut ouverte et mes 4 aides apportèrent la folle. Dès qu'elle aperçut les lumières, la foule à genoux, le cœur en feu et le tabernacle doré, elle se débattit d'une telle vigueur qu'elle faillit nous échapper. Et elle poussa des clameurs si aiguës qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église. Toutes les têtes se relevèrent, des gens s'enfuirent. Elle n'avait plus la forme d'une femme, crispée et tordue en nos mains, le visage contourné, les yeux fous. On la traîna jusqu'aux marches du chœur, puis on la tint fortement accroupie à terre. Le prêtre s'était levé, il attendait. Dès qu'il la vit arrêtée, il prit en ses mains l'ostensoir, ceint de rayons d'or, avec l'hostie blanche au milieu, et s'avançant de quelques pas, il l'éleva de ses 2 bras tendus au-dessus de sa tête, le présentant au regard effaré de la démoniaque. Elle hurlait toujours, l'œil fixé, tendu sur cet objet rayonnant, et le prêtre demeurait tellement immobile qu'on l'aurait pris pour une statue. Et cela dura longtemps, longtemps. La femme semblait saisie de peur, fascinée. Elle contemplait fixement l'ostensoir, secouée encore de tremblements terribles, mais passagers, et criant toujours, mais d'une voix moins déchirante. Et cela dura encore longtemps. On eût dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux, qu'ils étaient rivés sur l'hostie. Elle ne faisait plus que gémir et son corps raidi s'amollissait, s'affaissait. Toute la foule était prosternée, le front par terre. La possédée maintenant baissait rapidement les paupières, puis les relevait aussitôt, comme impuissante à supporter la vue de son Dieu. Elle s'était tue. Et puis soudain, je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos. Elle dormait du sommeil des somnambules, hypnotisée. Pardon, vaincue par la contemplation persistante de l'ostensoir aux rayons d'or, terrassée par le Christ victorieux. On l'emporta inerte pendant que le prêtre remontait vers l'autel. L'assistance bouleversée entonna un tédéum d'action de grâce, et la femme du forgeron dormit 40 heures de suite, puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance. Voilà, mesdames, le miracle que j'ai vu. Le docteur Bonenfant se tut, puis ajouta d'une voix contrariée: je n'ai pu refuser de l'attester par écrit.
On ira tous au paradis, mal moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. On ira, toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis.
Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est le seul église. Laisse un peu de bagarre ton âme, n'aie pas peur
bien le mal. On sera tous invités au bal, on ira tous au paradis. Avec les païens et même les chiens et même les requins, on ira tous au
Et pour finir, un conte mondialement connu, imaginé par le Danois Hans Christian Andersen en 1845. Vous l'avinez, ce conte qui se passe à la Saint-Sylvestre, c'est...
La petite fille aux allumettes.
Ah, bravo, vous avez gagné le 1000 francs du banco.
Il faisait horriblement froid. La neige et la nuit tombaient de concert. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Dans ce froid et cette obscurité, une pauvre petite fille marchait dans la rue, tête découverte et pieds nus. Certes, elle portait bien des pantoufles en sortant de chez elle, mais à quoi bon ? C'était de très grandes pantoufles, si grandes que sa mère s'en était servie dernièrement. La petite les avait perdues en se dépêchant de traverser la rue pour éviter deux calèches qui passaient à vive allure.
L'une demeura introuvable et l'autre, un gamin s'enfuit avec. La fillette marchait donc ses pieds nus, rougis et bleuis par le froid. Dans un vieux tablier, elle portait une quantité d'allumettes et tenait un paquet entre ses fines mains. Personne ne lui en avait acheté de toute la journée. Personne ne lui avait donné le moindre petit sou. Affamée et transie, elle avançait d'un air si pitoyable. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux blonds et bouclés, bien fragiles parures sous ce froid glacial.
Les lumières brillaient à toutes les fenêtres. Il flottait une délicieuse odeur d'oie rôtie dans la rue. C'était la veille du nouvel an. La petite vendeuse d'allumettes se prit à rêver. Dans un coin entre deux maisons, elle s'assit toute recroquevillée. Elle avait replié ses jambes sous elle, mais le froid n'en était que plus saisissant. La petite fille n'osait pas rentrer chez elle. Elle n'avait pas vendu la moindre allumette, pas reçu le moindre sou. Son père la battrait sûrement.
Ses mains étaient presque mortes de froid. Ah ! Qu'une petite allumette lui ferait du bien ! Oserait-elle en ôter une du paquet, la frotter contre le mur et se réchauffer des doigts ? Elle en tira une. Crac ! Comme elle s'enflamma, comme elle brûla ! La flamme était chaude et claire, telle une petite chandelle, quand elle l'entoura de sa main. quelle drôle de lumière!
La petite fille eut l'impression d'être assise devant un grand poêle en fonte, au tuyau de cuivre rutilant. Oh, il y avait un si bon feu, une si douce chaleur! Mais que se passait-il? La fillette étendait déjà ses pieds pour les réchauffer.
Quand la flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle resta avec le petit bout de l'allumette calciné à la main. Elle en frotta une autre qui s'enflamma, l'éclaira, baignant d'une lueur diaphane le mur à ses côtés.
Elle vit à l'intérieur de la salle, où la table était richement dressée, garnie des plus fines porcelaines et de couverts en argent. Une oie rôtie, farcie de pommes et fumant délicieusement s'avançait vers elle. Que la pauvre petite fille avait faim! Que l'oie semblait délicieuse!
Mais l'allumette s'éteignit et le mur réapparut épais et froid. Alors elle frotta encore une autre allumette.
La voici assise sous le plus beau sapin de Noël. Il était encore plus grand et plus richement décoré que celui qu'elle avait aperçu tantôt par la porte vitrée d'un riche marchand. 1000 bougies étincelaient au bout de ses branches vertes. 1000 étoiles scintillaient dans la lumière.
Mais l'allumette se consuma. La petite marchande vit alors dans le ciel une étoile qui tombait en traçant dans son sillage un feu brûlant.
« Voilà quelqu'un qui meurt »,
pensa la fillette, se remémorant les paroles de sa grand-mère aujourd'hui décédée.
« Quand une étoile tombe, c'est qu'une âme monte vers Dieu. »
Elle frotta une nouvelle allumette contre le mur qui éclaira la pénombre tout autour d'elle. Et dans cette clarté nouvelle, sa vieille grand-mère était là, si nette, si lumineuse, si douce et si bonne. « Grand-mère !» cria la petite. « Emmène-moi !»
Je sais que tu seras partie quand l'allumette s'éteindra, partie comme le poêle bien chaud, partie comme la délicieuse oie rôtie, partie comme le grand sapin de Noël.
Elle se hâta alors de craquer toutes les allumettes qui restaient dans son paquet. Elle voulait tant retenir sa grand-mère. Les allumettes brillèrent avec un tel éclat qu'il fit alors plus clair qu'en plein jour.
Jamais sa grand-mère n'avait été aussi belle, jamais sa grand-mère n'avait été aussi grande. Elle prit la petite dans ses bras et toutes deux s'envolèrent dans la splendeur et la joie. Toutes deux s'envolèrent là-haut où il n'y avait ni froid, ni faim, ni peur. Elles étaient auprès de Dieu. Au coin de la maison, dans l'aube naissante et glacée, la fillette était assise, les joues rouges, le sourire aux lèvres, morte de froid. Le nouvel an se leva sur son petit corps inanimé, à côté d'un tas d'allumettes brûlées.
Elle a voulu se réchauffer, murmurèrent les passants.
Personne ne sut la beauté de ce qu'elle avait vu, ni la joie avec laquelle elle était entrée, aux côtés de sa grand-mère, dans la nouvelle année.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's ten below, he's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go,
Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Eh bien, merci pour tous ces contes, Catherine. Le dernier n'était pas forcément le plus gai. Je n'arrive pas à comprendre.
Il y en avait d'autres qui étaient gais.
J'arrive pas à comprendre qu'on raconte ça aux enfants.
Ah, mais c'est pour moi montrer que tous les contes, c'est comme ça, c'est horrible.
Mais c'est absolument terrible.
Ouais.
Mais moi, je me souviens de ce conte quand j'étais enfant. On m'avait lu ça, mais j'avais détesté ce conte.
Mais c'est effrayant, les contes.
T'es si vieux que ça, Dominique ?
Oui, je suis si vieux que ça. Mais il existait avant que je naisse, ce conte.
C'est donc ça.
Alors,
oui, t'es pas né au 19e siècle. Hein.
Ça aurait pu.
Quand même, ce serait sympa de dire aux gens qui se préparent, une fois qu'ils ont entendu toutes ces histoires, un bon grog bien chaud. Parce qu'avec la neige et le froid qu'on a eu.
Oui, qui ça c'est ?
Oui, mais.
Ah ?
Dominique, en fin d'émission, me demande toujours la même question. Hervé, as-tu une idée du livre que tu vas lire la prochaine fois?
Oui, mais il va pas te la poser
Hervé,
cette fois-là.
As-tu une idée du livre que tu vas lire la prochaine fois?
Oui.
Waouh.
Non.
Je vais lire des extraits, hein, toujours forcément, du Baiser dans la nuque de Hugo Boris.
Un lauréat du prix Robles.
Exactement.
Bien.
Surtout qu'on va fêter en 2020 les 30 ans du Robles.
Voilà
grand
pourquoi,
événement.
Voilà pourquoi j'ai choisi ce livre.
Du coup, tu as défloré, nos auditeurs vont le lire avant
et
n'auront pas forcément envie d'écouter l'émission.
En plus, je ne sais pas combien il coûte, mais maintenant il est sorti en pocket,
en poche,
donc il n'est pas cher.
C'est pas cher du tout.
Très bien. Eh bien, rendez-vous donc le mois prochain pour ce magnifique livre tiré du prix Robles. Rappelle-nous le titre.
Le baiser dans la nuque.
Voilà. Et puis surtout, ne prenez pas trop le bourdon avec les belles histoires qu'on vous a lues.
Non, non. Mangez raisonnablement pendant les fêtes. Voilà.
Et puis prenez du plaisir. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde.
À bientôt.